Radio Okapi.
Maisha bora.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Ravi de vous retrouver encore dans Maisha Bora, votre magazine de santé et bien-être sur Radio Okapi. Aujourd'hui, nous vous parlons de la prise en charge médicale de patients de COVID-19 ou plus exactement du traitement de cette maladie en RDC. Marcel Ngomombala est à la présentation de ce magazine mis en ordre par William Longamba sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. En RDC, on parle à l'heure actuelle d'un taux de guérison de 60% des patients atteints de coronavirus. Tenez, selon les récentes données statistiques du secrétariat technique de riposte, plus de 5000 personnes ont été guéries sur plus de 8000 cas recensés. Quel est le traitement administré à ces patients de COVID-19 en RDC? Qu'en est-il aujourd'hui de l'option thérapeutique choisie par la RDC? Lorsqu'on sait qu'il y a une grande controverse autour de molécules préconisées dans le monde comme étant efficaces pour soigner la maladie à coronavirus. Éclairage à toutes ces questions, vous les aurez dans ce nouveau numéro du Maisha Bora avec le professeur Jean-Marie Kaimé. Il est membre de l'équipe de Riposte et en charge des patients atteints de COVID-19 en RDC. Et il faut le rappeler, jusqu'à ces jours, la controverse autour du traitement de la maladie à coronavirus est toujours d'actualité. Les scientifiques ne se sont pas encore accordés sur les traitements dans l'espoir qu'un vaccin pourra voir les jours dans les mois ou années à venir. On en est à différentes molécules qui semblent donner des résultats encourageants. En RDC, à l'apparition de COVID-19 au mois de mars dernier, l'option thérapeutique choisie était celle de l'association hydroxychloroquine-azithromycine. Qu'il faut y retenir aujourd'hui, près de 5 mois après l'apparition de COVID-19 en RDC, si le traitement utilisé et qui a d'ailleurs pu donner lieu à des résultats aussi encourageants, un taux de guérison de 60%. Suivant ce que nous ont dit les professeurs Jean-Marie Kaimé, nous rappelons qu'il est membre de l'équipe de Riposte et en charge des patients de COVID-19 en RDC.
Cette pathologie pandémie nouvelle, invitant scientifiques, praticiens de santé, dispensateurs de nouvelles à beaucoup d'humilité de manière collective, n'a pas fini de livrer ses secrets. Vous vous souvenez encore très rapidement de, comment dirais-je, la controverse hydroxychloroquine, azithromycine, etc., que nous avions choisi comme option thérapeutique, la première dans notre pays. En cela, nous avons le soutien d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, aujourd'hui le Brésil, les États-Unis à un certain moment, mais que de controverses autour de toutes ces considérations pour dire simplement, les médicaments vraiment antiviraux qui tuent réellement le virus, ça, ce n'est pas une sinécure. On sait que le monde scientifique a essayé de nombreuses molécules. Je m'en veux pour preuve, citer notamment le ramdésivir, qui est le nom. C'est un antiviral utilisé déjà dans le traitement de Ebola avec des résultats probants, des résultats satisfaisants, avec le MAB-104, qui est une production du travail commun entre nos chercheurs congolais et la NIH aux États-Unis. Il y a d'autres antiviraux, comme le lopinavir, ritonavir, ce nom est utilisé parce qu'on connaît ce médicament et son efficacité dans le contrôle du VIH-SIDA. Mais ce médicament-là aussi a été essayé dans la COVID-19 avec des résultats pas très très encourageants ni probants. Donc, globalement, plusieurs molécules, soit qui ont une action antivirale in vitro, ça voudrait dire au laboratoire, certaines sont appliquées ici en médecine humaine in vivo avec des résultats qui ne sont pas toujours probants. Bon, avec ce qu'on a reproché éventuellement à la chloroquine associée à l'azithromycine, le fait de manquer une étude randomisée qui pouvait montrer une observation. Nous avons chez nous au Congo aujourd'hui presque 4 mois d'usage de la chloroquine et azithromycine et les résultats de notre première étude observationnelle nous confortent dans l'idée de devoir poursuivre ce chemin-là, faute de devoir démontrer de manière évidente, parce qu'une étude observationnelle n'a pas cette vocation-là, de démontrer absolument une relation réelle de cause à effet. Toujours est-il que les résultats que nous observons entre ce que l'on avait déjà vu dans les études in vitro, que la charge virale diminue assez rapidement, et qu'il y aurait quand même un petit effet encourageant. Nos amis de Côte d'Ivoire, du Sénégal, ne nous contrediront pas, du Maroc également, dû les études qu'ils ont menées sur place. Pour dire qu'il y a une grosse, grande humilité dans l'attente éventuellement d'une panacée comme un vaccin qui serait réellement efficace pour la prévention de la COVID-19 à travers le monde.
L'option thérapeutique choisie au début de la maladie, au mois de mars dernier en RDC, a donc démontré son efficacité au vu du nombre des patients guéris. Mais attention, rachérit notre expert, il a dans l'entretemps aussi beaucoup d'autres facteurs, notamment dans la sensibilisation, la mise en œuvre de moyens financiers et aussi la disponibilité d'oxygène pour les patients souffrant des formes sévères de COVID-19 qui ont beaucoup contribué pour qu'on en arrive à ces jours à un taux de guérison du 60%, mais aussi une baisse sensible du taux de létalité, ou si vous voulez, du nombre de cas de décès.
Notre observation de l'association chloroquine-azithromycine, outre l'accessibilité de ces molécules disponibilisées en ce qui nous concerne par le gouvernement de la République, nous donne satisfaction. Satisfaction en ce, lorsque nous regardons la période avant l'utilisation régulière de ces molécules, je parle là du début mars, nous avions une létalité de l'ordre de 11%. Aujourd'hui, elle est de l'ordre de 2,3%, qui devrait encore diminuer davantage. Attention, je ne voudrais surtout pas me faire dire ce que je n'ai pas pu dire. Je ne suis pas convaincu que la chloroquine et l'azithromycine seules ont permis de réduire cette mortalité. Ce serait méconnaître les efforts de tout le monde, vous, les chevaliers de la plume et vous qui parlez, pour sensibiliser régulièrement dans l'adoption des mesures barrières. Et un des bénéfices de la prise en charge aujourd'hui, et pour cela nous remercions nos décideurs, c'est d'avoir avec les partenaires disponibilisé tout de même l'oxygène déjà au niveau de toutes les structures de prise en charge, ne fût-ce que l'oxygène par extracteur, qui nous permet déjà de contrôler ces patients qui, pour la plupart, meurent en insuffisance respiratoire. Des enquêtes faites localement nous montrent que nous disposons de l'oxygène, nous pouvons donner de l'oxygène à haut débit pour des patients qui ont des saturations faibles en oxygène. Toute la gestion des complications, ceux qui sont en état de choc, qui reçoivent des liquides, qui reçoivent des médicaments qui montent la tension, nous les appelons des amines vasoactives, mais aussi l'usage vulgarisé de manière de manière un petit peu étendue des anticoagulants. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la plupart de ces patients COVID-19 font également des maladies thromboemboliques, comme l'embolie pulmonaire ou le syndrome coronarien. Nous utilisons assez précocement et rapidement des anticoagulants, soit préventivement, soit à des doses curatives, avant les mesures de ressuscitation, comme l'assistance mécanique ventilatoire ou la ventilation non-invasive. Donc, c'est une conjonction de toutes ces mesures qui nous aident. Et plus récemment, recommandation a été faite dans des formes sévères, choc ou le syndrome de détresse respiratoire aiguë avec hypoxémie sévère, d'utiliser, pourtant on disait non au départ, des corticoïdes, notamment la dexaméthasone. Nous avons, nous, en étant à l'écoute de l'évolution dans le domaine, également introduit dans notre protocole thérapeutique, en tenant compte de la sévérité de l'état, attention, c'est pas tout le monde à des stades précoces, l'introduction de la dexaméthasone dans nos schémas. Voilà un petit peu ce que on peut dire aujourd'hui de la gestion de la COVID-19. Dans notre pays.
À la question de savoir comment s'est fait aujourd'hui la prise en charge de patients atteints de coronavirus en RDC et qui présentent le signe de la maladie, le professeur Dr Jean-Marie Kaimba affirme qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, car il y a maintenant ce qu'on appelle une approche zonale, c'est-à-dire au niveau des zones de santé, suivant ses explications.
Nous avons aujourd'hui une approche zonale, c'est-à-dire nous comptons davantage sur les zones de santé, qui est une force de notre système sanitaire, qui n'a pas que des faiblesses, évidemment. Les médecins chefs de zone sont ainsi directement impliqués dans la gestion des malades qui sont dans la communauté. Nos hôpitaux sont très rapidement débordés lorsqu'on doit pouvoir prendre tous les patients symptomatiques, et la plupart sont d'ailleurs asymptomatiques, vous le savez bien, la majeure partie de la population. Nous ne sommes pas capables de les recevoir tous en milieu hospitalier. Donc cette approche zonale, mais nous avons établi pour aider le décideur, ici je parle de l'agent de santé, à orienter correctement, avec le moins de risques possible, les patients vers soit une structure hospitalière ou surveillance à domicile avec port de masque, isolement, etc., nous avons établi quelques critères de fragilité. Un sujet âgé de plus de 60 ans, un sujet qui a des comorbidités, notamment l'hypertension artérielle, le diabète ou l'obésité, un sujet qui fait une fièvre, une température au-delà de 39 par exemple, ça ce sont des candidats éligibles à une surveillance rapprochée en milieu hospitalier. Des sujets jeunes qui ont peu, très peu de symptômes ou pas de symptômes, parce que le principe c'est dépister, tester, d'être isolé essentiellement, avec les mesures barrières, parmi lesquelles le masque, le port du masque, le chef de l'État l'a encore appelé. Voilà un petit peu de mesures qui nous aident à gérer au niveau de la communauté, de même qu'au niveau de centres de traitement, les patients en fonction de leur éligibilité. Donc nous avons une stratégie aujourd'hui assez bien éprouvée à ce point de vue-là.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix et vous suivez en ces moments. Baïcha Bora, votre magazine des santé et bien-être sur Radio Okapi. Nous parlons aujourd'hui de la prise en charge médicale des patients atteints de Covid-19 en RDC, notamment ce qui concerne le traitement, avec notre expert, le professeur Dr Jean-Marie Kaimé. Il est membre de l'équipe de riposte de Covid-19 en RDC et responsable de la prise en charge de patients atteints de coronavirus. À l'heure actuelle, le taux de guérison de Covid-19 des 60% au regard des données statistiques récentes où l'on enregistre plus de 5000 guérisons sur plus de 8000 cas recensés de coronavirus. C'est notre invité et s'il est vrai, il existe encore une controverse sur le plan scientifique en ce qui concerne le traitement de Covid-19, mais du moins, jusque-là, depuis l'apparition de cette maladie en RDC au mois de mars dernier, le pays a opté pour les choix thérapeutiques de la combinaison ou association hydroxychloroquine-azithromycine, mais évidemment, il y a d'autres médicaments spécifiques et aussi la disponibilité en oxygène qui ont permis d'enregistrer des résultats encourageants par rapport au nombre de personnes guéries. Bon nombre de gens s'interrogent tout de même comment peut-on parler au jeu de la chloroquine dans le traitement de Covid-19 alors que cette molécule a été retirée pour cause d'inefficacité dans le traitement de la malaria. C'est simplement parce que la chloroquine a montré au laboratoire des effets antirétroviraux.
La chloroquine dans la prise en charge du paludisme est un médicament qui a été soustrait, retiré complètement de notre armada thérapeutique pour cause d'inefficacité. Il y avait beaucoup de résistance du plasmodium là-dedans. Mais cette chloroquine, aujourd'hui, elle a, pour ceux qui en sont des défenseurs et qui y croient, elle a montré in vitro au laboratoire des effets antiviraux. La clearance du virus est beaucoup plus rapide, beaucoup d'études l'ont montré quand même, notamment celle de Didier Raoult à Marseille, qu'il élimine plus rapidement quand même le virus que chez des groupes qui n'avaient pas reçu cette hydroxychloroquine. Mais il n'a pas fait d'études randomisées. C'est un peu ça que lui reproche tout le monde, mais on sait C'est que la grande revue, en fait, qui a tiré à boulet rouge sur la chloroquine a été obligée de se rétracter et de retirer un article qui répondait plutôt, à mon humble avis, à des besoins industrie pharmaceutique qu'à de véritables besoins scientifiques, avec des données, à mon humble avis, fabriquées de toutes pièces. Eh bien, voilà. Donc, la chloroquine a quelques propriétés antivirales. En tout cas, c'est ancien, elle est connue depuis plus de 60 ans. De nombreuses études sont là-dessus, des propriétés immunomodulatrices et son action sur le virus, on sait, nous n'allons pas entrer dans les détails de la pharmacocinétique, mais on sait quelles actions elle peut avoir. Évidemment, qu'est-ce qui nous aide davantage, nous, en milieu tropical, etc. Il y a énormément d'hypothèses d'école à évoquer. Est-ce qu'il y a déjà, que nous sommes en train de progresser avec le nombre de personnes non détectées mais asymptomatiques, continuent de transmettre la maladie, sommes-nous en train de développer chez des personnes immunocompétentes, ça va sans dire, une sorte d'immunité collective. Il y a des enquêtes anciennes, maintenant de quelques mois, qui ont dit que le vaccin contre le BCG aurait une propension à protéger contre le Covid, sans l'avoir confirmé, évidemment. Mais nous savons tous que c'est un vaccin obligatoire dans notre pays dès la naissance, donc la plupart des sujets l'ont été. Et notre population, combien avons-nous de seniors au-delà de 75 ou 80 ans aujourd'hui? C'est la population, l'âge, facteur de risque et les comorbidités. Même si nous vivons aujourd'hui la transition épidémiologique, avec beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui de maladies du sédentarisme, dont l'hypertension, l'obésité et le diabète, mais nous sommes encore quand même moins frappés que les populations occidentales ayant un mode de vie totalement occidentalisé. Il y a tant de facteurs, sans oublier la discipline individuelle autour des mesures barrières. J'étais particulièrement heureux d'entendre le chef de l'État les répéter encore une fois. Je suis de ceux qui pensent la répétition est la mère des sciences.
Le respect de mesures barrières, on cessera de le répéter. C'est très important pour se protéger soi-même, mais aussi son entourage, d'autant plus qu'il y a de nombreuses personnes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne présentent aucun signe de la maladie à coronavirus. Donc on craint à la longue que cela puisse constituer un réel problème de la prise en charge de COVID-19 en RDC, pas du tout affirme notre expert.
Ça ne doit pas poser problème. Demandez aux spécialistes de questions de santé, ils vous diront que pour les maladies infectieuses, Dieu merci, nous disposons d'un armada défense intrinsèque. Ça, c'est l'immunité. Tout microbe qui pénètre dans l'organisme, c'est lorsque soit il a une très forte virulence, soit qu'il a changé lui-même génétiquement, etc. Grande concentration, exposition longue, prenons l'exemple de la tuberculose. Si la personne qui reçoit ces bacilles de coque, ici le virus de SARS-CoV-2 le reçoit par la voie d'inhalation, essentiellement par la voie des gouttelettes aériennes, etc., les gouttelettes qui sont émises en chantant, en parlant, en éternuant, etc. Aujourd'hui, on parle même de particules aérosolisées. Lorsque la personne reçoit cette inocula, donc parlons ainsi de cette concentration de bacilles, mais son organisme d'abord, s'il est sain, s'il n'y a pas de maladie débilitante ou qui déprime l'immunité, comme le diabète, les maladies rénales chroniques, le VIH, etc., mais ce sujet lui-même déjà, son organisme, l'armada défensive, les anticorps, les cellules immunocompétentes que nous avons en nous, nous permettent de nous débarrasser de ce virus. C'est ainsi que la plupart des sujets qui ont une immunité compétente arrivent à même infecter, à ne pas exprimer des symptômes, et c'est la majeure partie de la population. Le seul risque, c'est que cette partie des patients asymptomatiques, indétectables lorsqu'il n'y a pas de dépistage de masse, peuvent transmettre, dans une moindre mesure qu'une personne réellement symptomatique, peuvent également contribuer à l'extensibilité ou à la transmissibilité de l'affection. C'est ça le problème. C'est ainsi que vous entendez aujourd'hui des pays mieux nantis que nous parler davantage d'un dépistage de masse pour permettre aux gens. Et en général, lorsque nous disons aux gens, même ceux qui sont à domicile, gardez le masque, restez en isolement, en confinement, domicile, éventuellement une quatorzaine de jours, c'est parce qu'on sait à peu près que c'est au bout de 14 jours, ceux qui n'ont pas développé des symptômes, peut-être, j'insiste bien sûr le peut-être, ne développeront jamais des symptômes, parce qu'ils auront déjà réussi à éliminer le virus à cause simplement leur armada qui peut les descendre directement. Donc voilà un petit peu les raisons qui justifient l'isolement pendant les 14 jours et les défenses immunitaires de l'organisme d'un individu qui permettent quand même, elles aussi, de lutter de cette manière-là.
Vous savez aussi, les scientifiques du monde entier mènent de recherches en vue de mettre au point un vaccin contre le coronavirus, ce qui serait une très très bonne chose pour lutter efficacement contre la propagation de cette maladie, d'autant plus qu'il y a de nombreuses personnes asymptomatiques et que les tests massifs ne sont pas à la portée de nombreux pays. Mais là aussi, il faut encore attendre, car mettre au point un vaccin, c'est un long processus.
Je dois vous avouer que là aussi, c'est une course pratiquement contre la montre. Mais quand on voit les étapes d'installation ou d'agrément ou de libéralisation de la distribution d'un vaccin, elles sont nombreuses. Je pense que non seulement les scientifiques, ils y ont mis du paquet, le monde occidental, etc., font des efforts jour et nuit, mais je ne vois vraiment pas avant au moins l'année prochaine, même vers la fin de l'année prochaine, des résultats probants ayant tout à fait accompli toutes les étapes. Vous savez, la validation d'un vaccin, notamment par l'Organisation mondiale de la santé, doit montrer qu'il protège réellement et qu'il est efficace, qu'il n'a pas d'effet indésirable très important. Donc toutes ces étapes de surveillance font que les recherches continuent, c'est vrai, sans désespérer. On aura certainement un jour un vaccin. C'est l'histoire un peu de toutes les maladies infectieuses. Regardez une pathologie qui nous concerne en particulier, le paludisme. Depuis combien de temps parle-t-on de vaccin? Peut-être que ça n'intéresse pas de manière particulière les grands bailleurs. C'est une des raisons. Parce que le vaccin, la recherche vaccinale, elle coûte très cher. Cela est vrai pour des essais, mais ces essais doivent répondre à certaines normes éthiques.
À dire d'essayer dans plusieurs autres pays africains, les tradis praticiens phytothérapeutes ne sont pas en reste. Ils sont tous mobilisés pour trouver un traitement contre le coronavirus. Cependant, ils estiment que leurs recherches ne sont pas prises en compte. La contribution des chercheurs de tous bords peut être utile, mais seulement il doit répondre à l'éthique scientifique. Comme les souligne le professeur Dr Jean-Marie Kaimé, nous rappelons qu'il est membre de l'équipe de Riposte et en charge des patients de COVID-19 en RDC.
Moi, un chercheur qui reste dans l'éthique publicité aucune, le chercheur, sa première caractéristique, à mon avis, c'est l'humilité. Oui, je ne peux pas m'inscrire en disant « du Congo, rien de bon ne peut venir ». Ça, ce serait, à mon avis, se martyriser soi-même sans argument évident. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être bonnes à suivre. Mais la recherche scientifique a une éthique. La recherche scientifique a exigence. Il y a des étapes. Lorsque toutes ces étapes sont franchies, parce qu'il faut protéger les consommateurs de ces médicaments, il faut s'assurer de l'efficacité de la molécule. Si ce sont des molécules anciennes déjà utilisées, comme la chloroquine dans le paludisme, on en connaît les effets délétères, on sait ce qu'il faut pour éviter, minimiser le plus possible les effets indésirables ou délétères. Ça va. Mais la recherche scientifique, il faut en tout cas se plier aux exigences qui sont celles de la science, mais également celles de la morale et de l'éthique.
Congolaises et Congolais, chers frères et sœurs, je viens auprès de vous pour vous faire part des recommandations du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé relative à la prévention contre le coronavirus. Il s'agit des gestes barrières à initier au quotidien, non seulement pour nous protéger, mais pour protéger les autres. Lavez-vous régulièrement les mains et avec du savon. Utilisez une solution hydroalcoolique. Évitez au maximum de toucher votre visage avec les mains, potentiellement contaminées. Évitez les rassemblements de foule et de fréquenter des lieux publics où les interactions peuvent être fréquentes. Dans le doute que vous soyez vous-même porteur de virus, toussez et éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir qui sera immédiatement jeté. Limitez au maximum les contacts en gardant une distance d'un mètre environ entre soi et les autres, et surtout avec une personne qui tousse ou qui éternue. Arrêtez de faire la bise ou de serrer les mains. Je compte sur vous tous, pour sensibiliser les personnes autour de vous afin de suivre scrupuleusement ces recommandations. Chers papas, chère maman, chers jeunes, respectons scrupuleusement ces recommandations des autorités sanitaires. En le faisant, nous nous protégeons et nous protégeons les personnes autour de nous. Soyons responsables. Ensemble, nous sommes une communauté forte. Ensemble, nous viendrons à bout du coronavirus. Que Dieu nous garde et qu'il bénisse la République démocratique du Congo.
Ceci est un message de Madame Denise Nyakiru, Première Dame de la République démocratique du Congo.
Fin de ce numéro de Maïcha Bora de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à Willem Lungamba qui était à la mise en onde de ce magazine. Vous a été présenté par Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matuaki. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Maïcha Bora. D'ici là, prenez soin de vous et surtout continuez à observer les gestes barrières contre le coronavirus. À très bientôt.